Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Bécherel québécois reconnaît la réforme du participe passé. Un texte de Catherine Lalonde, paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir. Et si les pommes que j'ai mangées, M-A-N-G-E accent aigu, n'étaient plus une faute? La toute nouvelle édition du Bécherel québécois aux éditions Urtubise présente pour la première fois la réforme des accords du participe passé. Page 159, l'ouvrage recommande l'invariabilité du participe passé conjugué avec avoir. Une mention que jamais un étudiant ne va lire pendant ses devoirs. Selon Isabelle Laberge, d'Urtubise, mais qui provoque la liesse des spécialistes de la langue du Québec autant que des courriels inquiets de lecteurs à la maison d'édition. Le nouveau Bécherel signale systématiquement la réforme de l'accord du participe passé. S'est réjoui sur les réseaux sociaux le groupe québécois pour la modernisation de la norme du français. GQMNF. Le livre reconnaît ce que le Conseil international de la langue française et la Fédération internationale des professeurs de français recommandent, poursuit la publication. Le participe passé, employé avec avoir, peut toujours rester invariable. Le participe passé, employé avec être, peut recevoir en tout temps l'accord du sujet. C'est dans sa section « Grammaire du verbe » que le Bécherel expose désormais le problème du participe passé. Le problème? D'abord, c'est un accord presque exclusif à l'écrit, qu'on n'entend pas à l'oral. Qu'on entendait avant? Annie Desnoyers, étudiante au doctorat en linguistique et porte-parole du GQMNF, rappelle que fut un temps où on prononçait en français les finales vocaliques allongées pour marquer le pluriel ou le féminin. On faisait alors sonner le « s » ou le « e » en fin de mot. La disparition de ces sons s'est faite des années 1600 à 1800, poursuit-elle. À partir des années 1800, à la création de l'école obligatoire en France, on a ressuscité ces usages pour les règles d'orthographe, même s'ils n'étaient plus audibles. Depuis 200 ans, quand les enfants francophones arrivent à l'école, ils sont obligés d'apprendre un système orthographique qu'ils n'ont jamais, ou presque jamais, entendu. Le Bécherel rapporte ensuite que les règles d'accord du participe passé avec avoir et un complément direct antéposé sont peu respectées. On entend très souvent « les règles que nous avons enfreint », E-N-F-R-E-I-N-T, note-t-il, plutôt que la forme régulière « que nous avons enfreinte ». Finalement, cette règle est l'une des plus artificielles de la langue française, note l'ouvrage de référence. C'est le poète français Clément Marot qui l'a formulé en 1538 en prenant pour exemple la langue italienne et qui a, depuis, renoncé en partie à cette règle. La nostalgie de la règle difficile. Pour Isabelle Laberge, directrice au secteur pédagogique chez Urtubise, l'inclusion de la réforme du participe passé n'est qu'une des nombreuses petites adaptations du nouveau Bécherel. On est revenu au vert nostalgique de la couverture. On a remis les tableaux de conjugaison. On a amélioré la lisibilité des notes en relief. Les textes sont écrits avec l'orthographe rectifiée, autre nouveauté qui réjouit les linguistes, et on a 95 nouveaux verbes, dont des québécismes et des néologismes. Toutes des adaptations propres à notre contexte linguistique. Car depuis 1980, le Bécherel québécois est complètement autonome de son équivalent français produit par les éditions Attier. Ces dernières n'ont pas répondu aux devoirs. Incluront-elles la réforme dans leur prochaine édition? Pour Urtubise, qui met son Bécherel à jour à peu près aux 10 ans, on a vu les éditions 2006, 2012 et 2026. Cette année était le moment. 2036, ça faisait loin, indique Mme Laberge. Cette réforme des participes passés est proposée depuis 2014, au moins. Pourquoi l'introduire maintenant? Parce que de plus en plus de linguistes et pédagogues la réclament, dont 7 associations importantes, incluant les associations québécoises et belges, des professeurs de français, le Conseil scientifique de l'éducation nationale, du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse en France, et études pour une rationalisation de l'orthographe française d'aujourd'hui. Le dictionnaire numérique Usito inclut aussi la réforme des participes passés, mais c'est un outil moins connu. Le Bécherel, parce qu'il est grand public, fait passer cette réforme des publications et manuels spécialisés vers tout un chacun. Pour la linguiste et professeure à la TELUC, Mireille El-Chakar, le Québec est à l'avant-garde sur plusieurs sujets de la langue. La féminisation, la rédaction inclusive, les équivalents français pour remplacer les anglicismes, la lexicographie. Sur l'orthographe, on est plus frileux, alors qu'on devrait utiliser cette position d'avant-garde pour faire avancer la norme du français, estime-t-elle. Les exceptions en petits caractères. Qui sont les détracteurs de cette réforme? Parmi les spécialistes, il n'y en a que très peu, avance Annie Desnoyers. Les commentaires négatifs viennent surtout du grand public et sont souvent très affectifs, pas basés sur des faits, observe-t-elle. On va y parler d'un nivellement par le bas, par exemple. Ou « moi, je l'ai appris. Pourquoi les autres ne l'apprendraient pas? » Madame Desnoyers souligne également que nombreux sont ceux qui pensent maîtriser l'accord. Il y a 12,5 pages d'exceptions dans le Grevis. Qui peut écrire « ils se sont vus » V-U-S et « ils se sont plu » P-L-U et « m'expliquer l'accord » La règle proposée par la réforme n'est pas apparue par magie, dit avec le sourire Mireille El-Chakar. Les linguistes ont regardé comment fonctionne vraiment le participe passé en français en dehors de la règle empruntée à l'italien du 16e siècle. Dans 95% des cas, le participe passé reste invariable en réalité. La proposition n'est pas d'enlever la règle, car la langue, ce sont des règles et des mots, mais de la rationaliser en ôtant les exceptions. Les éditions Urtubise ont reçu déjà assez de courriels à ce sujet qu'elles ont une réponse prête à dégainer. L'ouvrage ne modifie en rien la règle actuelle et ne suggère aucun changement dans l'application, lit-on. La règle classique demeure entièrement valide et constitue toujours la référence explicitée dans les tableaux. On sait que la langue, c'est l'usage. Autrement dit, ceux qui la parlent et l'écrivent sont ses ultimes décideurs. Ce sont eux qui feront que la réforme passera ou ne passera pas. À moins que le ministère de l'Éducation et le ministère de la langue française obligent son enseignement. Ce qui serait un geste vraiment pionnier, selon les spécialistes interviewés. Le devoir et la réforme du participe passé. Le devoir sera-t-il novateur? Va-t-il adopter la réforme du participe passé, prônée par les spécialistes de la langue et reconnue pour la première fois par le Bécherel Made in Québec? À court terme, non. C'est impensable. Tranche Andréanne Bédard, réviseur du journal depuis 16 ans. Ce serait brutal pour notre lectorat, précise-t-elle. Les lecteurs du Devoir lisent attentivement et écrivent beaucoup pour relever les fautes. Ils sont très à cheval sur les usages classiques. Andréanne Bédard rappelle en riant ce qu'on appelle l'amour gate. En 2017, le journaliste Marco Fortier signait un article titré « Amours interdits » au pluriel, à la une du Devoir. Un déluge s'ensuivit dans le courriel de la rédaction et l'équipe de révision dut pondre un article la journée même pour rappeler que, selon l'Office québécois de la langue française, au pluriel, « amour », en règle générale, est aussi masculin. Reste que les lecteurs acceptent bien l'introduction de nouveaux mots. Au fil du temps, Mme Bédard a vu apparaître dans les pages « autrice »,« égoportrait », »,« mot-clic », »,« visio-entrevue ». Si le mot est bien formé et qu'on le comprend, on le garde. Notre politique, s'il n'y a pas de faute, on ne touche pas, résume Mme Bédard. L'orthographe rectifiée est un peu utilisée aussi. Par exemple, pour « lockout » et « plate-bande » au pluriel, même si ce n'est pas implanté encore dans l'usage. Surtout pour les traits d'union ou pour les néologismes formés avec les préfixes « inter », « auto », « poste » ou « pré », desquels on va enlever aussi le trait d'union. C'était « Le Bécherel québécois reconnaît la réforme du participe passé », un texte de Catherine Lalonde paru le 18 avril 2026 dans Le Devoir.
Elle court, la culture. Un texte de Dany Laferrière paru le 17 avril 2026 dans La Presse. La culture, ça court sur la planète comme un furet. On la croit ici et elle est déjà là-bas. On pense qu'elle s'est installée pour toujours dans un pays ou même dans un mode de vie fait pour elle et la voilà qui file ailleurs. Elle court et fait courir les foules en même temps, surtout à cette importante exposition de Monet au Artisan Museum de Tokyo. Les gens grimpent avec une telle avidité vers l'étage où les attendent les tableaux de Monet qu'un collectionneur garde jalousement au Japon auquel il faut ajouter l'apport important du musée d'Orsay. Comment un tableau respire sous le regard de ceux qui n'ont pu que le rêver pendant si longtemps et si loin de son point d'origine? Comment le désir grimpe les corps dans une foule? Observons attentivement ce groupe d'admirateurs face au déjeuner de Monet. On dirait une végétation attirée par la lumière qui vient d'une fenêtre ouverte. On repère aisément la culture dans un grand musée de Paris, New York, Londres, Venise ou même Montréal, pour ensuite la retrouver dans cette cahute près de la mer d'un pays si minuscule qu'on a du mal à la dénicher sur une carte. Je pense à cette femme qui gagnait si peu dans une usine près de l'aéroport de Port-au-Prince, mais dont les murs de l'unique pièce de sa maison étaient couverts de peintures primitives rappelant Matisse. « Tu es peintre ?» lui demandai-je. « Non, » fait-elle, « je voulais simplement cacher les trous et les taches sur les murs. » J'espérais en savoir plus, mais elle m'offrit pour toute réponse un sourire résigné. On découvre Sainte-Lucie, une petite île de 617 km² qui a donné Derek Walcott, ce poète fluvial qui a reçu le Nobel en 1992. On fait un saut chez sa voisine, Saint-Thomas, un caillou de 81 km² qui a vu naître le peintre Camille Pissarro. Pissarro cherche désespérément à poser sur la toile cette lumière tropicale dont on ne sait si elle vient de la mer ou du soleil, pour reprendre l'image aveuglante de Rimbaud. Des jeunes gens continuent encore à quitter leur patelin, Chicoutimi ou Petit Goave, pour monter à l'assaut de grandes villes, comme Montréal ou Port-au-Prince. Ils ont les yeux pleins d'un vert espoir, et ceux qui ne se laissent pas trop vite contaminer par la vie urbaine pourront apporter quelque chose de neuf à un monde vieillissant. Pour certains, la poésie est une affaire de vieux, plein d'adresse, mais encore capable de ressentir des émotions inédites, jusqu'à ce qu'on découvre cette jeune poète de 16 ans qui parvient à perforer nos corps de ces vers cinglants qui ne prendront leur sens que des décennies plus tard, quand notre sensibilité aura véritablement bougé. On la croit, cette culture, chez un voleur comme Villon, alors qu'elle crèche chez un prince, Charles d'Orléans, pas moins poète que le Villon dépendu. La musique classique, si sophistiquée qu'elle donne parfois l'impression de lever le nez sur tous ceux qui ne montrent pas patte blanche, ne dédaigne pas pour autant la grossièreté du jeune Mozart, obligé de préciser à son père « Je suis peut-être vulgaire, mais ma musique ne l'est jamais. » La culture n'est pas toujours propre. Elle se roule parfois dans le fumier moral avec Céline ou se dilue dans l'alcool bon marché avec Bukowski. Sinon, elle broie du noir avec Kafka, se cache avec Ducharme, prend une chambre avec Virginia Woolf. Elle court la culture, et reste la seule capable de nous sauver de la bêtise révoltante qui semble triompher à Washington, comme à Paris, mais ça passera comme une mode. Monet face à Hokusai. Ce jour-là, à Tokyo, je me suis retrouvé en moins de 3 heures face à ces deux monstres, Hokusai et Monet. Hokusai est chez lui. De plus, il a peint la grande icône du Japon, le mont Fuji. On peut voir les 36 vues du mont Fuji et 10 estampes additionnelles jusqu'au 14 juin 2026 si vous êtes dans le coin. C'est une obsession chez lui, et parmi ses nombreuses tentatives de capter cette œuvre créée par la nature, on retrouve la grande vague de Kanagawa, la plus célèbre estampe japonaise qui a été exposée au Musée des beaux-arts de Montréal jusqu'en juin dernier. Ce qui m'a impressionné, c'est de voir les Japonais en train de scruter les pièces avec une ferveur presque dérangeante. L'accrochage est étonnant. Les visiteurs ont le nez collé sur les tableaux. Sans un mot, ils observent le moindre mouvement du pinceau de Hokusai. Pendant des années, par toute saison, sous des lumières différentes, le vieux peintre a travaillé pour eux. On entend des rires d'enfants toujours gênés par un silence prolongé. Mais, étonnamment, la foule se presse chez Monet, qui, comme Hokusai, est rongé par cette obsession de peindre la même chose. Hokusai a beaucoup influencé Monet. Les nymphéas doivent tant à la Syrie sur le mont Fuji. On ne regarde pas Monet de la même manière qu'on le fait pour Hokusai, surtout à Tokyo. Si on dissèque Hokusai, on garde ici une respectueuse distance avec Monet. Face au déjeuner, on dirait des étudiants prenant des notes à un cours. Ce lien mystérieux qui ne s'est jamais relâché entre Hokusai, 1760-1849, et Monet, 1840-1926. Monet avait 9 ans quand Hokusai est mort à Edo. S'ils sont réunis aujourd'hui à Tokyo, dans 2 musées différents, c'est parce que l'art transcende le temps et les coutumes. Malgré l'espace accordé ici au Japon, c'est la Corée du Sud qui m'a impressionné par cette énergie qui déborde de partout. J'ai croisé ces jeunes gens si polis qui font de la K-pop, la dernière expression musicale qui semble être un mélange de rap américain et de manga japonais, Gangnam Style de Psy. Ils sont habillés proprement comme les Beatles, et l'un des membres influents du groupe, Félix, ressemble à David Bowie. J'ai été frappé de plein fouet par cette murale. Une traversée à la fois colorée, chaude, ludique et finalement inquiétante de notre matérialité quotidienne. Ces objets ramassés ici et là, au fil des jours, qui finissent par constituer l'autoportrait d'une époque jetable. On dirait une page manuscrite pour être déchiffrée après l'apocalypse. C'était « elle court la culture », un texte de Danny Laferrière paru le 17 avril 2026 dans la presse.
Des robots sur le plancher des vaches, un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir. Combien de compagnies d'ici peuvent se vanter d'exporter sur 4 continents des produits 100% conçus et fabriqués au Québec dans un domaine technologique de pointe, et ce depuis 50 ans? Loin des projecteurs, c'est l'exploit dont peut se targuer Rovibec, PME spécialisée dans la fabrication de robots destinés à alimenter les vaches laitières du monde entier. Au moment de la visite du Devoir, c'est encore un peu la fête dans les bureaux de Rovibec, situés en rase campagne, tout juste à l'extérieur de la municipalité de Nicolette. Ballons et affiches rappellent que, quelques jours plus tôt, l'entreprise de 70 employés a fêté en grand son demi-siècle d'existence. En 50 ans, l'entreprise est passée de la fabrication de chariots motorisés à la conception de robots capables d'accomplir le travail de plusieurs humains. Par exemple, le Ranger, qui a le look d'un aspirateur robot format géant, a pour mission de repousser vers les vaches le fourrage qu'elles déplacent en mangeant. « C'est notre vache à lait », résume avec le sourire Alexandra Rousseau, ingénieure et responsable du développement des affaires de l'entreprise. L'entreprise en fabrique de 8 à 10 par semaine et en vend 400 exemplaires chaque année partout dans le monde. Rovibec produit une version Nitro, 2 fois plus grande, pour d'immenses fermes des États-Unis. Rovibec conçoit également des distributeurs automatisés qui, installés sur un rail, virevolte au plafond des étables pour déverser nourriture ou litière dans l'enclos des vaches. Contrairement à l'image romantique qu'on peut s'en faire, les fermes laitières sont parmi les environnements les plus informatisés et robotisés qui soient. Un phénomène qui s'explique par le croisement entre la pénurie de main-d'œuvre agricole et l'accroissement de la taille moyenne des fermes. Au Québec, certaines fermes font figure de géantes avec 1000 bêtes, mais on est encore loin des gigantesques exploitations californiennes qui peuvent atteindre les dizaines de milliers de têtes. Dans de telles installations, la robotisation est en voie de devenir la norme. Si les clichés bucoliques sur le monde agricole en prennent un coup, le bien-être animal y gagne, affirme Alexandra Rousseau. Dans le fond, c'est pour qu'on laisse les vaches en paix. Ce sont des êtres sensibles. Plus elles sont relaxes, plus elles produisent. Grâce aux robots, qui sont très routiniers, elles ne se font pas déranger par des tracteurs ou de la machinerie. Revibec affirme que ces produits favorisent l'uniformisation de l'alimentation des animaux, tout en aidant les vaches timides, qui craignent la machinerie ou leur consoeur plus dominante. De la technologie terre-à-terre. Japon, Australie, États-Unis, France. Le carnet de commandes de Revibec dépasse les frontières québécoises depuis longtemps. Le Québec ne représente plus que de 40 à 50 % des ventes de l'entreprise. Une chance, sinon l'entreprise serait dans le fumier jusqu'au cou, selon les dires d'Alexandra Rousseau, petite-fille du fondateur, Victor Rousseau, lui-même producteur laitier à la base. En ce moment, la production laitière en Amérique du Nord, ça ne va pas très bien, dit-elle. Le marché laitier est toujours changeant d'année en année et le Québec, ce n'est pas le plus gros investisseur en produits agricoles. Il y a des fermes en vente, d'autres manquent de relève. C'est difficile. L'entreprise, qui génère un chiffre d'affaires annuel de 16 millions de dollars, a récemment embauché un premier employé français pour l'aider à investir le marché européen, notamment l'Allemagne. La compagnie mise également sur la diversification de ses activités pour assurer sa survie à long terme. À partir du Ranger, elle a développé le Ranger Man, un véhicule automatisé destiné au transport de marchandises à l'intérieur d'usines ou d'entrepôts. Une dizaine d'entreprises au Québec emploient déjà la petite bête, qui se contrôle à l'aide d'un cellulaire ou d'une tablette. Même s'il est plutôt impressionnant de le voir déambuler seul au milieu d'une usine, la technologie derrière le Ranger Man est plutôt simple, assure Alexandra Rousseau. Pas de système de géolocalisation ultra sophistiqué ou d'intelligence artificielle à bord. Seulement des composantes mécaniques et électroniques fiables, assez robustes, pour résister aux aléas de la vie industrielle. On veut faire une gamme de produits accessibles pour les PME. On vise avant tout la fiabilité, explique Alexandra Rousseau. C'était « Des robots sur le plancher des vaches », un texte de Benoît Valois-Nadeau, paru le 28 mars 2026 dans Le Devoir.